La fabrique citoyenne. La fabrique citoyenne, imaginée par AnimaFac, réseau national d'échange d'expériences et de ressources pour les initiatives étudiantes, est un dispositif mis en place pour répondre à certaines problématiques. La participation citoyenne se limite-t-elle à déposer un bulletin dans une urne tous les 5 ans? Quelle est la place de la jeunesse française dans le débat public? Les sujets politiques sont-ils trop complexes pour que les citoyens s'y intéressent et y prennent part? Et s'ils le faisaient, quelle vision ou modèle de société et quelles mesures en découleraient? La fabrique citoyenne a cherché à répondre à ces questions en réunissant 40 jeunes, 10 heures par jour durant 6 jours, au sein d'un dispositif savamment réfléchi. Ce groupe de 40 jeunes de 16 à 30 ans a été composé par un institut d'études de marché afin d'être représentatif de la diversité d'âge, de genre, de situation sociale, scolaire, professionnelle et de sensibilité politique de la jeunesse française. Réunis durant 6 jours, dont 3 ont été dédiés à l'information et la formation avec des experts qui ont apporté des positions pluralistes et contrastées, et 3 autres jours de délibération collective, un temps d'échange, de débat, d'écoute, durant lesquels ils sont passés du « je » au « nous » en transformant les opinions individuelles en propositions collectives. 50 propositions en sont ressorties autour d'une question: dans quelle société souhaitons-nous vivre en 2017? Vaste question déclinée sous 3 grands axes: l'école, l'économie et l'Europe. Les travaux et propositions réalisés ont été ensuite remis à chaque parti représenté aux élections présidentielles, qui ont tous été invités à y réagir au cours d'un débat organisé lors du Forum national AnimaFac à la Halle de la Villette le 17 février dernier. Lors de ce débat, les 40 jeunes de la fabrique citoyenne ont présenté leurs travaux aux 5 partis ayant répondu à l'appel, à savoir Europe Écologie, représentée par Eva Joly, l'UMP, représentée par Benoît Apparu, le Modem, représenté par Jean-Noël Martin, Martine Billard pour le Front de Gauche et Vincent Payon pour le Parti Socialiste. Un débat que la grenouille vous a fait revivre tout au long de la semaine, c'est Martine Billard pour le Front de Gauche qui clôturera cette série à 18h30 sur le 88.8, alors que nous retrouvons dès à présent Vincent Payon, représentant le Parti Socialiste, confronté aux propositions de la fabrique citoyenne. Bonne écoute.
La fabrique citoyenne. Moi, j'ai suivi, en dehors du fait d'avoir eu vos propositions, etc., j'ai suivi depuis un moment et m'avait exposé ce projet. Et je trouve, et je crois d'ailleurs, que ça n'était pas simple. C'est sans doute pas simple pour ceux qui ont participé, parce que ça demande de l'investissement, mais que c'est d'abord une grande réussite et que c'est quelque chose qui peut, dans un monde dans lequel on a toujours tendance à être un peu pessimiste, etc., donner un peu d'optimisme et qu'il y a des belles choses qui apparaissent à travers cette démarche. En tout cas, je le ressens comme ça. Alors, quels sont les éléments? D'abord, la première chose, moi, qui me frappe depuis très longtemps, quand on veut faire de la politique, ou qu'on veut s'engager, ou qu'on veut réfléchir sur sa condition, dans le fond, et là, quel que soit son âge, mais enfin, on commence à réfléchir assez tôt, c'est toujours, et on le voit dans la société avec beaucoup de violence, c'est toujours la rupture entre les intérêts particuliers, la place où je suis, ce que je connais, et un intérêt plus large. Alors on appelle ça l'intérêt général, ou c'est l'humanité qu'on partage avec les autres, etc. Il y a quelque chose qui est très effrayant, je trouve, dans le champ de l'espace public quand on y arrive, c'est des revendications qui sont souvent catégorielles. Je parle du point de vue où je suis. C'est mon métier, c'est mon territoire, c'est mon âge, c'est mon, etc. Et on se dit, et on a le sentiment, alors ces intérêts ne sont pas nécessairement convergents, hein, ils se battent entre eux très souvent, et on se dit que comment on va pouvoir vivre quelque chose en commun, avoir des projets qui nous dépassent, si chacun en reste à la revendication de son propre point de vue. Ça ne veut pas dire que le point de vue n'est pas intéressant, mais il y a toujours quelque chose qui doit être dépassé. Et je trouve ce qui est très intéressant dans ce que vous avez fait, pour moi un élément d'optimisme, parce que y compris, vous savez, quand on fait une campagne présidentielle, on est invité à venir parler devant les producteurs de betteraves, les machins de trucs, les ceci, les cela, et chacun dit « qu'est-ce que vous ferez pour moi ?» Et on dit, et c'était un peu l'enjeu quand François Hollande a décidé de faire la jeunesse une priorité, c'est pas une catégorie, c'est quelque chose qui doit concerner tout le monde. Et donc, pour retomber sur mes pieds, que vous compreniez ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai été très frappé que la fabrique citoyenne ne produise pas une revendication particulière. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi demain, ma petite indemnité, mais une réflexion qui concerne tout le monde, toute la démocratie, toute la société, même un projet commun. Et ça, je trouve que c'est extrêmement rassurant. Et au sens de la politique, si la politique peut avoir un sens noble, c'est précisément celui-là. Je ne viens pas pour réclamer simplement pour moi, même s'il y a évidemment des revendications légitimes dans la société, aux âges, selon les situations des gens, mais je viens avec un projet qui pourrait être un projet partagé pour tous. Et ça, je trouve que c'est une réussite considérable du travail que vous avez fait, en plus avec l'apprentissage de la démocratie. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'on voit ? Là, je faisais Radio Campus, et c'était posé une question bizarre, parce qu'il y a eu pour AnimaFac, Libération, un sondage qui a été fait auprès des jeunes, et qui dit simplement 15% des jeunes pensent que c'est la politique qui change les choses. Ben, moi, ça ne m'étonne pas du tout, et même ça me rassure. Parce que si c'était 100% la politique, ce serait une espèce d'état totalitaire dans lequel la société, les citoyens, les associations, les corps intermédiaires seraient paralysés, seraient les intellectuels, etc., seraient annihilés. Les représentants du peuple, c'est bien la notion même de représentant, ils doivent traduire quelque chose qui vient de la société. Et de ce point de vue-là, je trouve que, d'ailleurs c'est tout le salon honnêtement, hein, c'est de montrer précisément que les jeunes sont capables, ici c'est la jeunesse, de s'engager pour des causes, je le disais, qui ne sont pas particulières. Ils ne sont pas nécessairement directement politisés, c'est-à-dire je ne suis pas le jeune d'un parti politique, d'une adhésion à un homme, mais enfin, ça ne m'empêche pas de m'interroger sur l'Europe, sur la démocratie, sur... C'est quand même quelque chose qui est en soi très rassurant par rapport à tout. D'ailleurs, cette espèce de vulgate médiatique qu'on entend, ils sont désengagés, ils ne s'intéressent pas, ils sont apathiques, il y a un désintérêt pour la politique. Non, on voit exactement l'inverse. Et d'ailleurs, ce que vous traduisez comme thème dans vos propositions sont des thèmes vraiment politiques au sens large. Ce qui me permet de dire un mot sur la démocratie participative, parce que en 2007, quand avec Ségolène Royal, dont j'ai été le porte-parole à l'époque, elle met ce thème dans le débat politique, nous savons bien que nous avons besoin d'associations, de syndicats, de citoyens engagés, il n'y a quand même pas que les politiques, et la démocratie participative, questionner les gens, les interroger, les faire participer à la prise de décision, à la délibération, au suivi aussi des réalisations, pour voir si on fait ce qu'on dit, c'est quand même pas une régression de la démocratie, c'est un progrès de la démocratie. Et donc là, je suis heureux de voir qu'une expérience de démocratie, après toutes ces moqueries, après tous ces mépris, de voir que la démocratie participative, elle peut produire quelque chose qui est utile. Voilà, donc, comme première réflexion... sur le mécanisme même qui est le vôtre, l'implication, je ne sais pas, vous me direz si ça a été simple ou pas, ou c'est peut-être pas à vous de le dire, c'est peut-être pas le lieu, mais enfin, je trouve que c'est, de ce point de vue-là, très positif. Et donc, je veux rajouter quand même une nuance, parce que j'ai employé ce mot exprès, d'optimisme. Parce que je lis, et c'est vrai, je crois, pour la société française, je lis qu'à titre individuel, jeunes et moins jeunes, on serait peut-être assez optimiste sur nos plans, nos vies individuelles, on va se débrouiller, on va être heureux, on va trouver la femme ou l'homme de notre vie, le petit logement qui nous va, etc. Très bien. Mais que quand on réfléchit collectivement, on est super pessimiste. Et beaucoup plus pessimiste d'ailleurs que les autres pays. Et donc il y a quand même un discours, et un discours qui se reproduit sur les jeunes, qui est un discours un peu comme ça, je dirais, tristouné, quoi. Bon. Et là, je trouve que c'est un peu une leçon qui dit précisément autre chose, qui donne de l'énergie et qui montre qu'il y a de la générosité, de l'engagement, de l'intérêt général. Et donc, quand même, on n'est pas fini, quoi.
Alors, rentrons dans les mesures, Vincent Payon. Et ce groupe composé de 40 jeunes avait un Benjamin, et c'est Alexandre qui a 16 ans. Et Alexandre va vous poser la question sur l'école. Alexandre vient de Clermont-Ferrand, il est lycéen. Donc, à toi la parole, Alexandre.
Donc, tout d'abord, bonjour, Monsieur Payon. Nos propositions donc, concernant l'école vont dans le sens d'un changement radical qui permettrait donc une meilleure égalité des chances et à chacun d'avoir les possibilités donc, de choisir son avenir. Pour cela, on a orienté nos propositions, on les a articulées autour de 5 grandes thématiques. Donc, la première, ce serait la façon d'enseigner les contenus, la façon de les transmettre. Donc on a notamment planché sur le fait d'adopter le bloc « Apprendre à apprendre » dans le socle commun européen qui jusqu'à maintenant donc, faisait l'exception française qui n'a pas intégré ce bloc, et aussi insister sur la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, donc pour désenclaver les matières et montrer qu'elles ont un intérêt les unes pour les autres. Ensuite, donc, le mode de fonctionnement de l'école, faire de ce lieu non pas un lieu de compétition, d'échec, de sélection dure, mais un lieu de collaboration, d'entraide, et donc justement supprimer l'esprit de compétition par un esprit d'entraide, de coopération. Oui. Ensuite, il faudrait essayer de changer, de renouveler les interactions, les rapports entre les élèves et les enseignants. Par exemple, en changeant les modalités d'évaluation, on a notamment pensé dans le primaire, et donc qui permettrait à ces deux acteurs de travailler en toute harmonie. Donc on a pensé qu'il fallait justement revoir la formation des enseignants pour qu'ils soient, en plus d'être des experts dans leur domaine de connaissances, donc les maths, la littérature, aussi des personnes qui soient capables au mieux de transmettre ces mêmes connaissances et les compétences qui vont avec. Donc aussi finalement, on a décidé de mettre un point d'honneur à l'orientation, à la réorientation, pour justement limiter l'échec scolaire. C'était le dernier grand thème. Donc pour cela, on a une question, finalement. C'est parmi toutes les propositions formulées par la Fabrique citoyenne, lesquelles ont particulièrement retenu votre attention, que ce soit en positif ou en négatif, et pourquoi ?
Bon, merci beaucoup. C'est très gênant, parce que, moi je suis en charge des questions d'éducation. Vous savez que François Hollande a fait de l'éducation sa priorité. Et donc vous pourrez voir que ce n'est pas de la démagogie, puisque ces choses ont été publiées avant. J'ai été très frappé, en vous lisant, de retrouver les principales, je dirais plus que propositions, la philosophie qui anime un peu, il y a les propositions, mais il y a la philosophie qui anime la démarche qui est la nôtre. La première chose que vous avez pu dire, c'est on ne souhaite pas une réforme de plus, etc. C'est une réforme globale, vous avez dit, où nous on appelle ça une refondation. Il y a une lassitude de toutes les petites réformes et on se dit le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui va tellement mal. Difficulté des élèves, ceux qui sortent sans diplôme et sans qualification, 150 000. Accroissement des inégalités. 90% de jeunes des bacs pro en échec dans les premiers cycles universitaires, ce que vous savez après des difficultés d'insertion professionnelle. Anxiété des parents, parce que malgré tout, le diplôme reste, et toutes les études le montrent, la porte d'entrée vers le travail. Et quand on est un parent, on est à la fois on veut le bien-être de son enfant, on voit ce que l'école exige de lui ou peut provoquer comme souffrance. Nous sommes le pays où les élèves, après les Japonais, souffrent le plus. Et nous avons énormément de suicides de jeunes. C'est une école de la souffrance. Un grand sociologue de l'éducation, François Dubé, dit les vaincus. Ceux, on viendra aux notes, qui ont des mauvaises notes dès le début, qui sont en difficulté dès le début, qui vont rester dans le système très longtemps et vont n'y connaître que des humiliations, des difficultés, jusqu'à l'échec final. Des professeurs, vous le savez, qui sont très démoralisés, qui n'ont pas de bonnes conditions de travail, qui n'ont pas la reconnaissance dont ils auraient besoin pour bien accomplir leurs tâches. Et donc quand même, un diagnostic que nous pouvons tirer aujourd'hui, qui je crois est plus partagé qu'il n'était il y a quelques années, qui est de dire, là vraiment, on a un problème massif. Et si vous regardez en plus la situation de la France dans la plupart des évaluations qu'on peut avoir des systèmes d'éducation, vous vous rendez compte que la France sombre par rapport aux autres pays, c'est-à-dire qu'on est en train d'entamer notre avenir. D'où l'idée, il va falloir une refondation de l'école de la République. Pas une petite réforme, une refondation. Alors cette refondation, elle porte sur des tas de questions. Il y a des questions de moyens, il y a des questions de priorité. Il y a des questions aussi, parce que l'école c'est ça, qui touche toujours pas seulement aux questions de moyens, c'est pas que des tableaux, des craies, des postes, c'est un esprit l'école. Ça reproduit des mentalités, on va parler des notes, des hiérarchies sociales, des habitudes sociales qui viennent de très longtemps, l'élitisme républicain, vous dites une machine à trier, mais c'était vécu comme positif, c'était presque la fonction de l'école de produire une petite élite et puis tous les autres étaient, etc. Et certains parfois ont cru que c'était quelque chose de positif. Alors, ça suppose des réformes majeures, que vous avez citées. Un, je commence par votre fin, l'orientation. L'orientation en France n'existe pas. Elle n'existe pas, ça n'est pas vrai. Et donc, elle est faite uniquement négativement. La machine à trier. Et donc, on vous dit, tu vas aller, et d'ailleurs c'est étonnant pour les lycéens professionnels, les CAP, l'apprentissage, etc. C'est-à-dire que même ceux qui voudraient faire tel métier, on les met dans un autre métier, ce n'est pas le sujet, il faut les parquer quelque part. L'orientation, elle vient toujours, sauf pour très peu, négativement. Et on n'accompagne pas, ce qui est quand même l'essentiel, le choix de ce que sera sa vie, son destin, la construction de ses possibilités, le choix entre ses possibilités. De la fin du collège, nous sommes totalement opposés à l'idée de sélectionner encore plus tôt, comme le veut la droite, dès la fin de cinquième, qui consiste à mettre des gens encore dehors. De la fin du collège au lycée, mais aussi au premier cycle universitaire qui ne savent pas le faire, il faut créer en France un vrai service public d'orientation. Et on pourrait rajouter d'insertion professionnelle, parce que c'est quand même aussi un vrai sujet pour les jeunes, c'est par exemple une très grande faiblesse de l'université et sa faiblesse par rapport aux écoles. Donc première chose, former les gens compétents pour le faire, qu'il y ait des gens qui accompagnent chacun et qu'on puisse construire ses choix positivement. Ça veut dire aussi que quand un choix n'est pas le bon, on puisse avoir un deuxième choix, on puisse revenir et donc créer dans tous les sens des passerelles. Si je vais par exemple en lycée pro, il faut que je puisse revenir à un moment dans un cycle général ou par la licence professionnelle jusqu'au master ingénieur, etc. Il faut pouvoir aller dans tous les sens. Et donc, pas une fois, je suis enfermé comme le rat de laboratoire dans son labyrinthe et c'est fini. Je n'ai plus de... Il faut qu'à un moment, parce qu'en plus, on a des maturations différentes, on a des façons de fonctionner différentes, tout le monde ne va pas au même rythme, tout le monde ne trouve pas au même moment la motivation, on puisse reprendre, y compris après, avec le droit à la formation individuelle.
Excusez-moi, M. Payon, mais le chronomètre nous rattrape. Il nous reste 12 minutes et nous avons encore deux sujets à traiter. Et je pense
c'est de votre faute, hein, ce n'est pas de la mienne. Hein.
Mais c'est la,
vous posez des bonnes questions et vous voulez des mauvaises réponses.
Justement, attendez la toute dernière question. Vous aurez sans doute matière à poursuivre les échanges. Donc, merci pour ce début de réponse et en tout cas de voir l'écho que l'ensemble des propositions trouve chez vous. Le deuxième sujet, c'est celui de
l'économie. On les note, oui, la formation des enseignants m'empêche de parler. La formation des enseignants aussi, c'est des sujets très importants.
Grégory qui vient de Bordeaux, 20 ans, il est étudiant en commerce international et c'est lui qui va porter le regard de la fabrique sur l'économie.
Donc, Monsieur Payon, bonsoir. Merci d'être présent avec nous ce soir. Suite à notre étude sur l'économie en France aujourd'hui, et sur notre vision du futur à ce sujet, nos propositions pour une économie souhaitable passent par trois points principaux. Tout d'abord, nous souhaitons une reprise de pouvoir des citoyens sur l'économie, notamment en termes de transparence de la finance. Ensuite, par une économie qui revoit sa manière de mesurer la richesse et de la répartir. Enfin, par une économie ouverte sur le monde. On s'est aperçu que nous ne sommes pas contre la globalisation, nous ne sommes pas contre la mondialisation, mais ceci doit répondre aux défis écologiques de manière innovante et créatrice d'emplois. Par rapport à ce que vous avez pu découvrir dans nos propositions, voici notre question. Quelles propositions de la fabrique citoyenne autour de l'économie ont particulièrement retenu votre attention? Positivement, mais aussi de façon négative, car il peut être particulièrement intéressant de comprendre les raisons de ces blocages.
Bon, en combien, une minute maintenant?
4 minutes.
Donc on va faire la finance internationale, l'économie, la justice fiscale en une minute. C'est pire qu'à la télé en fait, moi je croyais. Bon, les sujets que vous avez abordés, c'est simple, c'est qu'est-ce que nous voulons? D'abord, le fait que vous dites on est dans la globalisation, c'est un mot, bon c'est bizarre, moi aussi j'emploie les mêmes que vous, hein, mais mondialisé. On est, dans le fond, on partage une commune humanité. Et le fait de l'accepter ou que le monde moderne nous ait amené dans le village planétaire, à savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, c'est ce qui évite aussi les dictatures quand certains veulent mettre la main sur... De penser que des pays en voie de développement, des pays très, très pauvres peuvent nous rattraper. Alors ça fait peur parce qu'on n'est plus l'Europe triomphante et l'Europe qui faisait... Mais dans le fond, c'est une bonne chose, hein, on le sait. Et que vous disiez ça, c'est important. Ce n'est pas simplement la globalisation de la finance qui pose des problèmes, on va y venir. Mais il y a une globalisation quand même globalement, de la démocratie, du progrès et de la richesse. Et on ne peut pas être des gens qui disent, bon, nous on a été un îlot de bonheur, On met des miradors, on met des murs, et on va s'en tirer comme ça, en faisant que les autres, ça ne marche pas. Mais c'est d'abord porté par des valeurs qui sont des valeurs très françaises, hein, puisque dans la Révolution française, la République naît avec l'idée, c'est la Déclaration universelle, enfin la Déclaration des droits de l'homme à l'époque, que nous partageons un genre humain commun. Donc nous sommes internationalistes fondamentalement. Et d'ailleurs, le message républicain de la France, c'est toujours un message ouvert sur les autres. C'est fondamental. Bon. Là-dedans, comment quand même il faut organiser cette mondialisation de telle sorte, vous l'avez dit, que ce ne soit pas la loi de la jungle, que ce ne soit pas aujourd'hui. On a enlevé les frontières d'abord pour les transactions financières internationales et on ne l'a pas fait, par exemple, pour le droit, pour les exigences sociales, même pour la fiscalité. Même en Europe, la fiscalité n'est pas la même d'un pays à l'autre. On voit la concurrence fiscale, les délocalisations. On le voit sur le droit de l'environnement. On le voit donc. Le travail de votre génération, ça va être de construire au début du 19e siècle les gens de progrès. On construit dans le cadre de la nation, qui était un marché, hein, c'était la révolution industrielle, des régulations sociales, démocratiques, etc., pour faire que les enfants travaillent plus à la mine, qu'on puisse voter, que ça a été des combats terribles. Mais ils ont mené ces combats. Et par rapport à ce marché, ils l'ont organisé. Aujourd'hui, c'est dans le cadre mondial. Ça ne va pas être un combat en faisant ça, ça ne va pas être deux jours. C'est la trajectoire historique devant nous, c'est-à-dire d'essayer de construire dans le cadre européen, qui est un instrument, et dans le cadre multilatéral, ces instruments qui sont la démocratie, d'abord, parce qu'elle n'est pas là partout dans le monde, parce qu'on n'a pas de démocratie mondiale, on voit les difficultés de l'ONU, on n'a même pas de démocratie européenne, c'est un des grands combats qu'il va falloir poursuivre pour votre génération, plus d'intégration, plus de démocratie, mais aussi des régulations sociales, des régulations... Bon, dernier point pour aller vite, ça va porter un nouveau modèle de développement, c'est ce que vous dites. Y compris comment on mesure les richesses. Vous savez, il y a des travaux qui ont une vingtaine d'années qui disent ça. Est-ce que la richesse, même comment on calcule le PIB, le produit intérieur brut d'un pays, la richesse d'un pays, est-ce qu'il ne faut pas faire entrer dedans, les programmes nationaux des Nations Unies avaient fait ça, des considérations qui sont la santé, qui sont l'instruction, qui sont le bien-être, qui sont... Le mot même richesse, il y a une très belle sociologue française qui s'appelle Dominique Méda, c'est quoi la richesse ? Est-ce que c'est uniquement l'argent ? On est riche d'argent ou on peut être riche de tas d'autres choses, hein, de bonne santé, etc. Et donc là aussi, il y a une évolution dans les indicateurs de richesse eux-mêmes. Cette idée d'un nouveau modèle de développement, on le voit d'ailleurs avec l'épuisement des énergies, les problèmes de couche d'ozone, etc., etc. Ce nouveau modèle de développement, il devra accompagner cette régulation internationale. Donc moi, j'étais content de voir là aussi vos réflexions et il faudra qu'on se revoie pour qu'on puisse vraiment parler.
C'est Nadia. Oui, vous savez qu'il y a une question d'équité de traitement entre les différentes personnes qui interviennent.
C'est des blagues.
Nadia est étudiante en communication et marketing à Paris. Elle a 22 ans et c'est elle qui va terminer cette rencontre avec vous en vous parlant de l'Europe.
Oui, donc bonsoir, rebonsoir. Alors, voici nos principales propositions pour une citoyenneté européenne renforcée. Alors d'abord, si on veut que les citoyens se sentent européens, il faut encourager les occasions de connaître l'Europe et les autres Européens, en renforçant le sentiment européen par l'éducation, en rassemblant les citoyens par des symboles et en les sensibilisant à travers la communication. Et ensuite, il faut leur donner davantage d'occasions de débattre de l'Europe qu'ils souhaitent. Et tout ça passe par des droits de vote élargis, davantage d'élections directes et, comme vous en avez parlé juste avant, de démocratie participative. Pour nous, cela doit servir à infléchir le projet européen pour une Europe donc plus durable et plus solidaire. Donc, même exercice pour la dernière question. Quelles propositions autour de l'Europe ont particulièrement retenu votre attention, positivement et négativement, et pour quelles raisons ?
Voilà. Bon, je sens que j'arrive au bout de mon oral, il y a un moment de soulagement. Bon, tout à l'heure, quand on dit cette affaire sur l'éducation, et je reprends parce que ça fait lien, comme ça on fait lien entre les trois, et les jeunes avec qui je travaillais, qui avaient lu vos textes, me disaient « c'est drôle, c'est des vieux thèmes que vous développez partout ». Parce que quelle était l'idée des républicains ? Ils disaient « pour faire la République, il faut des républicains ». Et donc c'est pour ça qu'ils ont confié à l'école le soin de faire la République. Faire une République avec des gens qui n'en partagent pas les valeurs, c'est un peu compliqué. Bon. C'est ce qui fait qu'après la Révolution française, d'ailleurs, on a échoué pendant longtemps. Et qu'est-ce que se sont dit les gens au XIXe siècle? Ils se sont dit, attention, on n'arrive pas à faire la République en France parce qu'on ne s'est pas emparé, d'une certaine façon, des consciences. Parce que ce qui fait le plus dans une société, c'est l'esprit commun, l'esprit public, les valeurs que nous partageons. Ben, reproduisez ça aujourd'hui, c'est votre tâche. Comment vous faites l'Europe sans Européens? Donc la vraie question pour l'Europe aujourd'hui, c'est pas seulement au Parlement européen, nous parlons nous énormément de mesures techniques sur, je sais pas quoi, les enjoliveurs de tracteurs, sur les tailles des cages à poules, on fait un peu plus sur les plans de sauvetage, etc. Mais tout ce que vous avez dit qui concerne l'esprit public, ça ne marche pas. C'est-à-dire que même les symboles ont été enlevés, vous savez, après les débats, donc les symboles de la construction européenne sont beaucoup moins présents. On n'a pas cherché à construire un esprit public européen. Et on voit même les États qui regagnent quand même sur le fédéralisme. Bon, donc la grande affaire, moi j'avais essayé de faire entrer dans les textes européens cette notion d'esprit public en 2002, la grande affaire c'est pour faire l'Europe, il faut faire des Européens. Et pour faire des Européens, il faut se construire un esprit public, mais avant un espace public. C'est pas simplement avec Arte qu'on va y arriver. Bon. Et donc il faut qu'on ait les mêmes informations, il faut que d'une certaine façon on ait des programmes scolaires qui soient les mêmes, il faut regarder d'ailleurs la réussite des Erasmus, il faut qu'on échange et qu'on voyage dans l'Europe, il faut etc. Et c'est quand on aura construit cet esprit public européen par des tas de moyens qui sont possibles qu'on y réussira. Et j'ajouterai quelque chose parce que moi je me suis beaucoup battu là-dessus au plan européen et en visitant le salon j'ai vu que beaucoup des gens de votre génération sont sensibles à ça et je le crois. Les échanges entre les Européens, c'est une bonne chose. Les programmes Leonardo, les programmes Erasmus. Mais pensez aux révolutions de l'autre côté de la Méditerranée. Et moi, je crois beaucoup que le développement de l'Europe sera aussi dans la capacité à se tourner vers son Sud. Que non seulement le Sud a besoin de nous, mais que nous avons besoin du Sud pour notre avenir. De plein de points de vue démographiques, économiques, démocratiques, géostratégiques, etc. Et de ce point de vue-là, il faudrait aussi que l'Europe soit capable de développer des échanges, et nous avions un programme d'Erasmus et de Leonardo euro-méditerranéen, de telle sorte que les jeunesses des deux rives de la Méditerranée puissent aussi se croiser, parce que je crois que si on réfléchit à 50 ans, ça nous changerait d'être pas toujours dans l'immédiateté et la seconde, c'est là qu'on a notre espace, c'est un espace d'un milliard d'êtres humains qui peut conduire une prospérité et un modèle démocratique ensemble.
Les membres de la Fabrique citoyenne, et vous avez souligné tout à l'heure la qualité de la démarche. Les membres de la Fabrique voudraient savoir, projetons-nous au lendemain du 6 mai, si François Hollande est élu président de la République, est-ce qu'il est prêt à recevoir les membres de la Fabrique à l'Élysée, d'approfondir avec eux certaines des recommandations, vous avez dit qu'il vous manquait de temps, et de mettre en œuvre quelques-unes des recommandations issues par la Fabrique?
Bon, il y a plusieurs aspects. D'abord, si c'est tombé dans « on vous recevra à l'Élysée, vous verrez les ors de la République parce que vous avez participé à la Fabrique », on peut le dire, peut-être même on le fera. Mais je pense bien que vu la qualité de ce que vous faites, c'est pas ça. Que cette démarche soit... Bon, d'abord les mesures, je l'ai dit quand même, hein. Par exemple, c'est plus compliqué sur l'Europe, mais on voit la réorientation que nous prenons de l'Europe. Mais sur l'école, il y a vraiment une identité totale. On n'a pas eu le temps de développer, mais enfin la réforme fiscale, la plus juste redistribution des richesses, c'est un des points majeurs de la proposition politique faite par François Hollande. La priorité à l'école et la refondation aussi, la réorientation de la construction européenne. Donc tous ces éléments, oui, sont pris. Ce que nous devons faire, c'est changer aussi la gouvernance. Alors il y a deux choses. La priorité à la jeunesse, et vous l'avez montré, la jeunesse, ça n'est pas une catégorie. La jeunesse, c'est un pays capable de se projeter dans son avenir. Et faire de la jeunesse la priorité, et dire, comme le dit François Hollande, je demande à être jugé, si je suis élu dans 5 ans, sur les progrès que j'aurai fait pour la condition de la jeunesse dans mon pays, c'est pas simplement servir une catégorie. D'ailleurs, électoralement, c'est pas très brillant, parce que c'est pas eux qui font les élections. Mais c'est dire, c'est tout un pays qui se remet en mouvement et qui est capable de se projeter dans l'avenir. Et puis la deuxième chose, et je vous demande d'y être attentif dans ce qui se passe, c'est que nous devons porter un projet politique qui n'est pas un projet avec un président qui prend toutes les décisions en disant les corps intermédiaires, je l'ai entendu, il faut s'en débarrasser, les syndicats, les associations sont exempts. Les citoyens sont convoqués dans une démocratie directe qui est une télécratie aujourd'hui. Et en réalité, c'est une forme de pouvoir totalitaire. Dans la mesure où on n'associe pas le Parlement aux décisions de ce pays, eh bien, je pense que nous avons, et ça doit être un grand projet, et sans doute que la gauche a raté à plusieurs occasions, en tout cas n'a pas fait suffisamment, de mettre en mouvement toute la société. Et donc de faire en sorte, sans doute de recevoir sous les ors de la République, mais de faire que tous ceux qui produisent des idées, tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent s'engager, tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui dépasse d'ailleurs y compris leur intérêt particulier, eh bien, puissent contribuer à la production de l'intérêt général et à la détermination des politiques publiques. Ça me semble absolument essentiel. Je pense d'ailleurs que tous les grands progrès démocratiques, économiques et sociaux se sont faits, quand vous regardez l'histoire, quand le peuple, au sens noble du terme, pas le populisme, pas l'exaspération des mauvaises passions, mais est capable de se projeter sur la scène démocratique.
Merci Vincent Peillon pour cette conclusion.
C'était Vincent Peillon, confronté aux propositions de la Fabrique citoyenne le 17 mars dernier lors du Forum national des initiatives étudiantes à la Grande Halle de la Villette. Rendez-vous à 18h30 sur le 88.8 FM avec Martine Billard, représentant le Front de Gauche, qui clôturera cette série d'échanges avec la jeunesse française. Rendez-vous dès maintenant sur la page Fabrique citoyenne sur radiogrenouille.com pour retrouver l'intégralité de ces débats et toutes les informations sur ce dispositif original de participation citoyenne. Restez à l'écoute sur Radio Grenouille.